c'est vous qui le dites.
Vous êtes à l'écoute de Radio U à Quimper et à l'approche des élections municipales et communautaires, nous recevons les candidats à la mairie. Mais avant le premier tour le 15 mars et le second tour le 22 mars, il est important que vous, auditeurices, vous puissiez comprendre les enjeux de ces élections et les propositions des candidats quimpérois. Nous recevons donc dans un premier temps le binôme en tête de la liste Quimper solidaire et populaire. Bonjour Marie Lovers.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Paul Debest.
Bonjour.
Marie Lovers, vous êtes chargée d'animation dans le secteur associatif. Vous avez 36 ans et vous êtes quimperoise depuis 2018. Vous êtes aussi
2021.
Et vous êtes aussi militante à la France Insoumise, qui est donc un parti qui soutient votre liste à Quimper. Et Jean-Paul Debest, vous êtes journaliste de profession et militant au nouveau parti anticapitaliste que l'on connaît sous les trois lettres NPA, parti qui vous soutient pour sa branche anticapitaliste, puisqu'il y a deux branches au NPA, il y a aussi une autre branche révolutionnaire. Et puis vous êtes aussi soutenu par le parti La Gauche Bretonne. Alors avant de rentrer dans le cœur de votre programme, je trouve important de vous laisser nous expliquer rapidement pourquoi vous vous lancez dans cette élection municipale. Marie Lovers, peut-être, pour commencer.
Oui, de toute façon, là, ça fait maintenant quelques années qu'on est très engagé au niveau local, que ce soit au niveau militant, mais aussi au niveau associatif. Enfin, moi, je suis engagée depuis des années dans le milieu associatif. Et ce qui m'a poussée à m'engager ici dans ces élections, c'est de voir à la fois des urgences, qu'elles soient sociales, écologiques, mais aussi démocratiques, de voir la société qui change et de me dire qu'il y a une action à mener, et notamment à l'échelle locale, sur lesquelles il y a des leviers pour essayer de construire avec les Quimpérois et les Quimpéroises une politique du quotidien. On va pouvoir en parler là aujourd'hui. Et surtout avec de nombreux citoyens et citoyennes qui ont souhaité rejoindre notre collectif, avec qui on fait un beau travail.
Et vous, Jean-Paul Debest ?
Je suis Quimpérois depuis 2019. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai une expérience d'une trentaine d'années de journalisme et j'étais au journal L'Humanité. Dans la vie militante, j'ai eu un lien facile avec mon engagement et mon métier, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le fait d'arriver à Quimper m'a donné l'opportunité d'avoir une vision plus locale de mon engagement politique, qui était avant plus national ou international. Lorsqu'on a eu des discussions locales sur la création de cette liste, ça s'est trouvé presque naturel qu'on soit dedans. Et les camarades locaux nous ont fait confiance, tant à Marie qu'à moi, chacun, à la fois l'ensemble du collectif et nos organisations. C'est pour en fait avoir une déclinaison locale des engagements que j'ai depuis une trentaine d'années.
Donc là, votre campagne a débuté et donc vous commencez un petit peu à partager les points importants de votre programme et on va en parler notamment parce que notre commune Quimper accueille de nombreux jeunes étudiants, par exemple, c'est environ 5000 étudiants à Quimper et aussi des jeunes actifs et il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, logement, alimentation, conditions de vie, santé mentale. Sur le logement, peut-être pour commencer, c'est très difficile pour les étudiants de trouver un logement à Quimper parce que le marché locatif est très tendu et ça crée de fait une augmentation des loyers et une difficulté pour beaucoup à se loger. Vous êtes opposé à une décision du conseil d'administration de l'OPAC Quimper Cornouailles, un bailleur social du Sud Finistère, d'augmenter ses loyers. Est-ce qu'il faut encadrer le prix des loyers à Quimper et comment la ville peut faciliter l'installation des étudiants ?
Oui, alors plein de questions à la fois concernant l'OPAC. En tout cas, c'est un établissement dans lequel la collectivité est présente aussi au sein du conseil d'administration et donc peut voter en tout cas les volontés de hausse ou pas de loyer. Nous, on l'exprimait dans la presse et je pense que c'est pour ça que vous y revenez, on est fermement opposé à l'augmentation des loyers du moment que l'OPAC est excédentaire parce qu'on estime que la question du logement, déjà le logement est un droit, n'est pas une marchandise sur laquelle on peut spéculer et qu'aujourd'hui le loyer prend une part de plus en plus importante du foyer pour tout le monde, c'est devenu la principale dépense. Et pour lutter contre les inégalités, il faut aussi à un moment donné qu'on puisse stopper cette montée en avant du montant des loyers. Et notamment la question des jeunes. Enfin, moi, j'ai vu en septembre des étudiants qui étaient arrivés et qui ne trouvaient pas à se loger, qui ont fini par se loger au camping municipal. Donc il y a une urgence. Pour ça, il faut pouvoir y répondre et il faut pouvoir tuer cette spéculation qui crée cette tension, hein, finalement, du loyer. Mais ce n'est pas la seule mesure. Nous, on souhaite aussi notamment réquisitionner les logements vacants parce qu'aujourd'hui, en 2026, il y a encore à Quimper plus de 1000 logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans, alors qu'il y a une vraie crise. Il y a plus de 3000 personnes qui sont en attente d'un logement social. Et on le voit, c'est aussi tendu pour les étudiants. Il faut qu'il y ait une politique volontariste sur le foncier. Il faut qu'on construise et qu'on produise plus de logements, mais aussi agir sur ceux qui sont existants et réhabilités et réquisitionnés. Je te laisse compléter.
Et notamment, par exemple, en construction de logements, mais que ce soit c'est pas forcément de l'extension territoriale. On est pour la construction de 400 logements HLM par an. Donc les autres candidats sont sur 500 constructions par an, mais nous, c'est essentiellement de l'HLM et qui est effectivement des possibilités de résidence étudiante à prix à loyer modéré, parce que c'est vrai que comme le disait Marie, hein, jusque dans les années 80, le logement c'était à peu près 10-12% des revenus du foyer, maintenant c'est 25 ou 30 quoi. Donc c'est effectivement devenu absolument impossible. Par ailleurs, les APL sont relativement ridicules. Donc il y a des éléments qui dépendent effectivement d'une ville. Donc là, je pense qu'en termes de construction, c'est notre responsabilité. Et après, il y a des éléments qui nous dépassent, bien sûr, c'est les APL, c'est les bourses, enfin, il y a différentes choses qui viendront peut-être après sur les revenus des étudiants.
Alors, à Quimper, les pôles étudiants, que ce soit le pôle Pierre-Jacques-Esselias ou l'IUT, où nous sommes actuellement, sont assez excentrés du cœur de ville. Comment permettre aux étudiants de ne pas être exclus de la vie culturelle, de la vie associative du centre-ville? Est-ce qu'on peut agir aussi sur ce point-là?
Moi, je pense que la première chose sur laquelle on peut agir, c'est à minima la mobilité. Nous, en tout cas, la question des transports est un des points cruciaux de notre projet, à la fois sur le plan écologique, parce qu'on pense qu'il faudrait petit à petit sortir du tout voiture, mais aussi ça peut être un vrai frein. C'est pour ça qu'on propose aujourd'hui les bus gratuits pour tous et toutes, et tous les jours, pas seulement les week-ends, parce qu'on veut redonner le droit à la mobilité, lever les freins et permettre à toutes et tous de se déplacer sans que ce soit un poids supplémentaire financier. Mais pas seulement, enfin, il faut aussi qu'il y ait plus de bus, parce que c'est pas en les rendant gratuits uniquement qu'on permet la mobilité. On le voit, à certains horaires, il n'y a plus de bus le soir. Donc comment sortir aussi quand on est étudiant et qu'on ne peut pas rentrer à partir d'une certaine heure? Donc il faut qu'on augmente la fréquence, mais aussi les horaires des transports. Donc ça, c'est un des premiers leviers.
Là, effectivement, oui. Et puis on parlait d'écologie. Effectivement, je suis arrivé tout à l'heure pour me garer sur le parking. J'ai pas pu.
Oui, donc, non, c'est vrai.
Donc je pense qu'effectivement, les étudiants sont amenés à devoir
utiliser. Les étudiants de l'IUT sont très nombreux à venir en voiture. Voilà, ouais. Et notamment parce que beaucoup habitent chez leurs parents, donc pas forcément à Quimper même, mais dans les communes aux alentours, et n'ont pas la possibilité de venir en transport jusque sur les sites universitaires. C'est une fausse question.
Voilà, justement, donc on pense, nous aussi, effectivement, avec ça pourra pas se faire du jour au lendemain, c'est revoir aussi les interconnexions avec avec Brezgo, et aussi aux arrivées de Quimper, là, mettre aux arrivées majeures, de mettre des parkings
parking relais ?
Des parkings relais gratuits et non artificialisés, parce que bon, il y a aussi cette dimension écologique qui pour nous est tout aussi importante, et donc aider navettes qui emmènent notamment sur les pôles étudiants. Marie l'a abordé tout à l'heure, c'est vrai que on peut pas aller au cinéma, au théâtre à Quimper, parce qu'on sait que on rentre à pied, quoi. Ou alors faut son vélo ou encore sa voiture. Donc voilà, comme dans le logement, il y a effectivement l'aspect financier immédiat qui est en jeu, et la gratuité totale sans avoir besoin de faire la demande. Parce que c'est vrai que le fait de faire... On sait qu'en France, 50% des gens ne demandent même pas les aides auxquelles ils ont besoin. Donc, ouais. Ça peut aussi participer. Et de la mixité avec les plus anciens aussi. Donc, ça peut avoir toutes sortes d'intérêts de se retrouver ensemble dans un quart.
Alors, ce genre de proposition est souvent critiqué par les oppositions puisque ça nécessite un coût de payer... Enfin, je veux dire, de permettre la gratuité des transports. Est-ce qu'à Quimper, ça serait... Il y a des études qui disent que c'est faisable ou c'est...
C'est des choix financiers. Hein. En gros, si mes souvenirs sont bons, c'est 3 millions sur QBO, par exemple, 3 millions et demi. Et sur Quimper même, c'est dans les 2 millions, 2 millions 5. Par rapport, c'est un investissement, c'est évident. Mais de même qu'on ne se pose plus la question pourquoi il n'y a plus d'octroi aux entrées des villes. On sait maintenant que c'est gratuit, c'est rentré dans la tête des gens que c'était gratuit. Donc c'est le transport... pour aller au travail, pour aller faire ses études, comme le logement, d'un point de vue peut-être, de mon point de vue, c'est quelque chose qui doit être, ça devrait être un service public.
Oui, et puis enfin, juste pour compléter, comme tu l'as dit, c'est aussi un choix politique. On ne se pose pas la question de combien peut coûter, par exemple, tous les systèmes de vidéosurveillance qu'on vient mettre, ou alors équiper d'armes létales la police municipale. Bon, ben bah, voilà, nous, très clairement, en tout cas, s'il y a une orientation financière à faire, ce serait davantage pour essayer de permettre la mobilité à toutes et tous que de rajouter une surenchère sécuritaire.
Oui, parce que je précise, on ne va pas parler de sécurité dans cette interview
mais
parce que c'est pas,
en tout
parce
cas,
que c'est
voilà,
pas le
c'est
sujet, mais vous êtes la seule liste qui s'oppose à l'armement de la police municipale, c'est important de le préciser. Alors les acteurs culturels expriment aussi des inquiétudes quant à l'avenir de la création. Comment envisagez-vous d'encourager et de soutenir la vie culturelle locale à Quimper?
Déjà, pour nous, la question de la culture est vraiment fondamentale. Bon, on vient vite fait de parler de sécurité, mais je pense qu'il est primordial de nos jours d'essayer de remettre la culture dans une sorte de vivre ensemble. Voilà, on est Quimper solidaire et populaire, il faut que la culture soit accessible à toutes et tous. Ça passe à la fois par du soutien aux artistes, hein, leur permettre justement que ce soit par de la mise à disposition de locaux, parce qu'on a parlé de logements vacants, mais il n'y a pas que des logements vacants, il y a beaucoup de locaux vacants aussi, que ce soit en centre-ville, mais partout à Quimper. Donc voilà, essayer d'aider à l'installation et à la création artistique, partout, dans tous les quartiers, mais aussi permettre un accès à la culture, à la pratique amateur aussi, et ça passe aussi par le soutien à la vie associative, parce que beaucoup de structures culturelles sont des structures de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas de l'éducation populaire, et il faut renforcer ce secteur qui est aujourd'hui en crise, beaucoup par un abandon de financement au niveau national, mais en tout cas au niveau local, c'est aussi un choix de pouvoir soutenir ce secteur financièrement, en maintenant en tout cas les subventions, en apportant de la stabilité aussi, de la subvention pluriannuelle avec des conventions pluriannuelles pour pouvoir voir dans le temps, ne pas avoir recours à des appels à projets qui mettent en concurrence un petit peu les structures. Donc voilà, c'est aussi faire confiance, permettre l'expression, ne pas être dans une commande publique, mais de permettre une expression artistique libre et autonome, indépendante. Enfin voilà, mais aussi, donc ça c'est la partie, on va dire, expression culturelle. Il faut aussi permettre l'accès aux équipements culturels à toutes et tous, notamment soit par la gratuité déjà des médiathèques, mais la tarification sociale aussi aux équipements culturels de Quimper.
Oui, et dans l'aide aux associations, je vois par exemple, on a des structures municipales qui sont gérées par des associations, je pense au Novomax par exemple.
Qui est gérée par l'association Polarité.
Voilà, et qui voit ses subventions baisser, qui s'inquiète pour leur avenir, alors
bien
que...
Sûr.
En fait, entre choisir une grande salle à l'eau blanche qui sera pour des événements qui feront, entre guillemets, briller Quimper, je pense que l'augmentation, une salle supplémentaire plus grande pour le Novomax, par exemple, permettrait qu'ils continuent leur politique de musique diverse et variée, d'apprentissage de la musique, et de poursuivre leur mission avec un cadre un peu plus grand, parce que c'est vrai qu'ils sont limités à, je crois, d'avoir 200 ou 250 places au Novomax, debout, donc, alors qu'il y a un certain nombre de concerts, de prestations, qui auraient permis d'avoir beaucoup plus de gens, quoi.
Et même au-delà du tissu culturel, le tissu associatif quimpérois est essentiel dans la vie locale de la ville. On ne va pas dire le contraire, nous aussi, en tant qu'association quimpéroise. Comment entendez-vous garantir la liberté d'action des assos d'une part et continuer à les soutenir matériellement et financièrement? Est-ce qu'il y a des dispositifs que vous proposez?
Tout à fait. Au niveau de la vie associative, donc dans le domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé au sein de la maison des associations, il y a des leviers. En tout cas, la ville est un partenaire de la vie associative, mais il faut qu'il y ait une reconnaissance des légitimités, que ce soit la légitimité de la collectivité en tant que légitimité électorale, hein, de représentation démocratique, mais la légitimité aussi d'experts et d'acteurs ancrés localement. En effet, la vie associative, donc c'est 1500, un peu plus de 1500 associations à Quimper qui font vivre le dynamisme, la cohésion sociale, l'entraide, la solidarité, le vivre ensemble de Quimper. Pour soutenir ce tissu, il faut qu'il y ait un travail de co-construction entre la ville et les associations, et ça peut passer notamment par ce qu'on appelle une charte des engagements réciproques, qui serait donc une déclinaison locale. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis favorable et on va essayer de la proposer. Mais tout ce processus doit se faire en co-construction avec les associations. Donc d'abord une charte des engagements réciproques, mais aussi nous proposons la création d'un CLVA, un conseil local de la vie associative, pour donner une voix au niveau municipal dans cette instance aux représentants des acteurs associatifs. Et puis plein d'autres quand même, d'autres dispositifs. Je pense qu'il faut aussi revaloriser la vie associative en leur permettant de se faire connaître, d'avoir des vitrines. Bon, on a le forum de rentrée, le forum des associations régulièrement, mais je pense qu'il faut redonner beaucoup plus de temps, ça peut être le printemps des associations à certains moments, leur permettre d'exister, d'animer la ville à différents quartiers. Je pense aussi au festival Réva, au niveau des maisons de quartier, les MPT, MJC. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait différents temps pour exister, se faire connaître, pouvoir... Il y a aussi une crise, enfin pas une crise, il y a des difficultés d'engagement, l'engagement aujourd'hui a changé, on le voit, et puis je pense que c'est lié aussi au fait que de plus en plus, il y a la question des retraites qui est de plus en plus tard, donc on va perdre aussi des bénévoles de ce côté-là, mais même les jeunes, c'est pas qu'ils ne s'engagent plus, c'est qu'ils s'engagent différemment, c'est un engagement beaucoup plus ponctuel, il faut aussi pouvoir accompagner cet engagement, et puis voilà, il y a pas mal d'autres dispositifs qui existent pour notamment essayer de permettre la création de junior associations qu'il faut accompagner.
Alors les enjeux écologiques, mobilité, rénovation thermique, biodiversité, qualité de l'air sont toujours très importants à l'échelon municipal. Quelles seront vos priorités écologiques au niveau municipal dans votre programme? On ne peut pas ne pas penser aux inondations qu'on a connues il y a quelques semaines encore à Quimper, notamment au quartier du Moulin Vert ou sur les rives de l'Audé. Quelles sont vos priorités vis-à-vis de cette récente actualité?
Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois, pour nous, on a deux éléments. Il y a d'une part la ceinture alimentaire qu'on propose. Et effectivement, par rapport aux inondations, il est évident qu'on ne va pas ergoter sur les travaux à faire sur tel ou tel, sur le STER, sur l'ODE. Il y a des choses techniques, mais on sait tous que des bâtis, des constructions qui limiteraient l'eau pendant quelques années, on sait qu'on est parti dans un cycle de dérèglement climatique relativement fort, et c'est aussi désartificialiser en amont. Donc ça remet en cause aussi la destruction des haies, des talus liés à la... Et là, effectivement, ça ne dépend pas immédiatement d'une ville, hein, parce que la politique agricole, avec le remembrement qui a explosé dans les années 70, qui a complètement changé le visage de la Bretagne, certes, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut... C'est notre lien permanent entre la ville, ce qu'on peut faire dans une ville, et après ce qu'une ville peut demander à l'étage du dessus aussi, donc il y a ça. Et je te laisse peut-être sur la ceinture alimentaire.
Oui, enfin, au-delà, enfin, nous, ce qu'on propose, c'est une commune qui ouvre la planification écologique. Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus fermer les yeux sur l'urgence du dérèglement climatique, qui est une charge lourde aussi sur les jeunes, hein, sur l'avenir. Ça laisse un avenir assez incertain. C'est pour ça que nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut plus seulement une transition, mais une bifurcation. Et cette bifurcation, elle peut être que populaire, parce que je pense qu'on peut pas opposer justice sociale sociale et écologie. Ce qu'on appelle par planification écologique, c'est vraiment de faire face et de mettre l'action publique au service des besoins essentiels. Donc on en a parlé, se loger, se déplacer, mais aussi se nourrir. Donc cette ceinture alimentaire que tu as évoquée est un plan phare, mais avec aussi une régie municipale de l'alimentation, parce que la question de l'alimentation, c'est la manière dont on produit, mais c'est aussi la question de l'injuste prix de l'alimentation, et c'est une question de santé et de justice sociale. Donc tu l'as évoqué, mais on parle de planifier le zéro artificialisation net, hein, en sanctuarisant les espaces naturels, forestiers, agricoles, et en stoppant l'étalement urbain. Donc là, une municipalité peut agir sur le plus en sanctuarisant ces espaces. C'est aussi agir sur les communs, la question de l'eau qui est un bien commun à garantir. Il faut qu'on reprenne, alors là on ne peut pas le faire tout de suite, il y a une convention, mais dès 2028 je crois, de reprendre en régie municipale la gestion de l'eau de manière démocratique, et aussi en proposant la gratuité des premiers mètres cubes et une tarification solidaire pour une régie publique de l'eau et de l'assainissement.
Alors, le pouvoir d'achat était un petit peu déjà abordé, mais je voulais vous poser une question qui compte aussi. C'est un exemple à Kermoisan, où d'après les habitants dont West France faisait l'écho le mois dernier, il y a une disparition progressive des commerces et des services à Kermoisan. Et c'est vrai qu'on peut voir des inégalités se créer entre quartiers de Quimper sur les petits commerces, et ça participe aussi du cadre de vie. À Quimper, comment on peut remédier à cette disparité des installations des commerçants ?
Déjà, on peut continuer à agir sur le foncier. C'est vrai que, par exemple, même si ça s'est un petit peu amélioré à Kermoisan depuis un mois, parce que la supérette a réouvert. Ouais. Mais par exemple, il y avait beaucoup plus de petits commerçants avant sur la dalle de Kermoisan, avant que ça ne soit donné en gestion à Carrefour, qui a maintenant les différents petits box. Alors que si avant il y avait une gestion, enfin il y avait c'était une régie municipale qui donc il y a déjà ça, il y a le retour en régie des espaces. Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit sur le logement, c'est-à-dire la réquisition d'espaces qui ont été vides depuis trop longtemps. Ça marche aussi bien pour le petit commerce de centre-ville que dans les quartiers, parce qu'il y a des quand on se promène dans les quartiers périphériques, il y a plein d'endroits où on dit, tiens, ça pourrait être sympa. Par exemple, tout près d'ici, il y a une pharmacie qui est aux tourelles, mais la petite placette, il n'y a plus que la pharmacie. Pareil, au Moulin Vert, il y a de l'autre côté, rue du Manoir, il ne reste plus que deux ou trois petites boutiques, alors que c'était avant une petite placette. Ça faisait petite placette de village, enfin. Donc je pense qu'il y a une... Et puis il y a aussi, même si on n'a pas les manettes complètement, c'est discuter avec les commerçants, avec des gens qui veulent s'installer, pour essayer de faire en commun. Enfin, voilà.
Après, il y a aussi la possibilité, nous c'est ce qu'on propose dans notre programme, la création d'un crédit municipal pour accompagner en tout cas les TPE et PME, et notamment le développement de petits commerçants de proximité dans leur activité. Et en tout cas, en tant que mairie, c'est aussi une priorisation, c'est-à-dire quel domaine on soutient. Voilà, nous on est pour une commune qui soutient une économie locale, juste et créatrice d'activités, mais qui soit au service et qui ait une utilité sociale pour les habitants, que ce soit commerce de bouche, pour des épiceries sociales, mais aussi essayer d'aller développer tout ce qui peut être coopérative, qui est une nouvelle manière aujourd'hui de créer de l'activité, aller sur le champ de l'économie sociale et solidaire pour répondre aux besoins et remettre en tout cas à proximité des commerces utiles pour les habitants et les Quimpérois et les Quimpéroises.
Justement, tu as parlé d'épicerie sociale, et c'est vrai qu'à Quimper, il y en a une qui est perdue. Je pense qu'il faudrait... dans la mesure où il y avait un reportage la semaine, il y a une dizaine de jours sur notamment ça partait des étudiants des Beaux-Arts, mais qui ont presque rien, enfin qui pour ils dépendent des Restos du Cœur ou de
situation de précarité alimentaire.
En gros, il y a 50% des étudiants qui, une fois qu'ils ont payé leur logement, le minimum vital, il leur reste à peu près 100-110, et encore c'est une moyenne. Donc je pense que vraiment une épicerie sociale proche du pôle universitaire ici à Crèche-Gouen permettrait aussi d'alléger la vie des étudiants, parce que c'est vrai que déjà les études c'est pas facile, si en plus faut passer son temps à bosser. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Quoi.
Alors, on arrive vers la fin de cette interview déjà. Quelques dernières questions. pour la première fois, ces élections municipales pourraient être très largement influencées par un contexte national et même international, j'ai envie de dire. Certains électeurs peuvent avoir des hésitations à soutenir un projet en raison de positions prises par certaines composantes nationales du pays. Comment comptez-vous parler à un électorat qui peut être malheureusement de plus en plus indécis en local ?
Je pense que déjà au niveau local, on a quand même une chance, même s'il y a en effet un impact, parce que les médias, ils jouent beaucoup, hein, des fois une instrumentalisation, une alimentation de peur, enfin, on exacerbe des choses, mais je pense que les élections municipales ont toujours eu un impact sur les gens par la proximité. Nous, on a un projet qui essaye de parler des choses du quotidien. Quand on parle logement, comme on l'a fait quand on parle transport, quand on parle culture, quand on parle... On a peu parlé de démocratie, mais en fait, on porte aussi des choses hein, qui parlent aux gens. Il y a une vraie attente démocratique, on l'a vu ces dernières années, un besoin d'expression, un besoin d'émancipation. Je pense que c'est en continuant ce qu'on fait, c'est-à-dire ne pas rentrer dans ce jeu qu'on voudrait nous faire porter sur des crises de partis, de quelles étiquettes on va coller sur les organisations, mais de rester droit sur nous, un projet de rupture qu'on pense nécessaire pour les Quimpérois et Quimpéroises, qui parle du quotidien, des réalités des gens. Et je pense qu'à partir de là, en restant vrai, en restant dans une ville à taille humaine aussi, hein, Quimper, ça reste une ville moyenne, on n'est pas dans un dispositif de métropolisation. Quand on vient parler aux personnes de ce qui les touche, je pense que on reste dans une élection. Après, il faut justement, et enfin, vous avez dit comment on parle aux indécis. Je pense qu'il y a une défiance aussi de la vie politique à l'heure actuelle.
Bien sûr.
Il y a aussi toute une classe qui a été abandonnée, des classes populaires notamment, à qui qu'on a stigmatisé, qu'on a fragmenté. Je pense qu'aujourd'hui, nous, notre liste, c'est notre souhait, c'est de parler aussi à ces gens-là, pas parce qu'ils sont précarisés, mais parce qu'ils existent, on les entend trop peu, ils sont invisibles. On avait fait ce travail, en tout cas, il y a un an, de faire une enquête populaire en allant demander aux gens quelles sont leurs priorités. Ça nous a permis de construire le programme. Voilà, je pense que c'est en allant au plus près des quartiers, en allant directement discuter par le porte-à-porte aussi, et en étant dans l'écoute. Je pense qu'il faut faire émerger les attentes populaires plutôt que d'arriver avec un projet descendant et des grands projets pharaoniques.
Alors, une dernière question vis-à-vis du second tour, que vous l'atteigniez ou non, le second tour, c'est-à-dire si vous pouvez vous maintenir, parce que alors, j'explique très rapidement, mais je crois qu'à partir de 10% des suffrages exprimés, une liste peut se maintenir au second tour au municipal. Si les suffrages vous placent derrière la liste d'Isabelle Assy, qui est soutenue par le Parti Socialiste, les communistes et les écologistes, est-ce que vous arriverez à opérer une fusion, ou est-ce que vous allez devoir retirer votre candidature pour s'opposer à la candidature de M. Mingui?
Il y a différentes choses dans la question que vous posez, parce qu'il faudra, dans un premier temps, il faudra déjà, si on se retrouve en possibilité, et on l'espère fortement, d'être au deuxième tour, il faudra qu'on discute entre nous déjà pour voir si on se maintient ou pas, et de toute façon, l'initiative viendra de l'équipe de Madame Assy, qui jusqu'à présent a toujours claironné qu'il n'y aurait pas d'accord avec l'extrême gauche, on va dire, dans la mesure où maintenant même la FI
est... Les FI.
Ou même les FI maintenant nous a rejoint dans l'extrême gauche. Donc voilà, c'est le collectif, là on peut... on en discutera bien sûr un petit peu, là, je pense que la semaine prochaine on va se poser un peu la question, mais voilà, c'est démocratiquement qu'on
décide. Il n'y a pas eu de discussion pour le moment entre vos listes, malgré que ce soit des listes de gauche?
Non, pour le moment en fait on est dans une élection, si on est là c'est qu'on est là pour gagner dans tous les cas, et laissons passer le premier tour, c'est les électeurs qui décideront, il faudra qu'on voit justement ce que donne ce premier tour, et si deuxième tour il y a, c'est à ce moment là que les discussions pourront avoir lieu. Nous, en tout cas, on a un projet qu'on souhaite maintenir, et avec des, enfin, le projet de rupture qu'on propose, cette rupture, elle est, c'est ce qu'on souhaite maintenir, en tout cas.
Mais merci beaucoup, Marie Lovers et Jean-Paul Debest, d'avoir
merci
accepté cette invitation.
Merci pour cette invitation, en tout cas.
Et puis bonne fin de campagne.
Merci.
Merci.
C'est vous, l'émission d'info locale.